Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Ça fait bientôt 8 ans que je suis dans le Diwa. Ça fait encore un peu plus longtemps que ça que je travaille dans les énergies renouvelables. Un citadin en quête de campagne et qui le vit plutôt bien depuis 8 ans. École d'ingé à Marseille, puis derrière Paris pendant 6 ans, mais dans des petites boîtes qui travaillaient plutôt sur le grand éolien, le grand photovoltaïque. Et puis au bout d'un moment, trouver que c'est un peu trop financier et puis avoir envie un peu d'autre chose que la vie de Paris. Et du coup, c'est d'allier un peu les deux, ou les trois, les énergies renouvelables, côté un peu plus alternatif, et puis la campagne.
Jean-Baptiste Boyer et la SIC 10 watts.
Nous, c'était une école d'ingé généraliste, donc on apprend plutôt à parler avec tout le monde et à comprendre les problématiques des gens. On résout pas grand-chose, mais par contre, on apprend vraiment à comprendre les gens, et puis on a quand même quelques bases techniques pour... comprendre des gens qui parlent technique, mais après c'est beaucoup plutôt concevoir des choses, on va dire, mais pas forcément des produits en tant que tels, mais plutôt beaucoup sur des projets. Nous, c'est vraiment très orienté gestion de projet, entrepreneuriat aussi, mais avec des composantes techniques fortes, on va dire.
Qu'est-ce que tu peux nous dire du grand éolien, puisque tu l'as cité?
Que un, c'est des piliers de la transition énergétique. C'est très compliqué de faire sans, en considérant qu'il faut réduire ses consommations assez fortement. Je veux dire, c'est même pas en débat, mais je veux dire, même une fois qu'on a dit ça, c'est très compliqué, c'est particulièrement compliqué sur Biovallée de le faire, mais c'est vrai au niveau national, on peut pas s'en passer. En tout cas, s'en passer veut dire recourir ou dans le pire des cas aux fossiles ou au nucléaire, quoi. Voilà, grosso modo. Ou alors vraiment avoir des impacts sur nos vies qu'on, je suis pas sûr qu'on soit prêt à assumer en termes de changement, quoi. Voilà. De fait, dès qu'on dit que c'est grand, forcément c'est impactant pour tout un tas de choses, pour la nature, pour les gens, pour nos activités, pour la relation qu'on a au paysage, pour plein de choses. Et du coup, c'est vrai que ce qu'on défend dans 10 watts, c'est la nécessité d'en parler collectivement, et que ça, on peut pas se dire que c'est un acteur privé avec peut-être un seul actionnaire qui décide de si on va avoir des éoliennes pendant au moins les 20 prochaines années, quoi. C'est des sujets importants et collectifs. C'est l'incarnation d'une certaine vision du monde aussi, où finalement, si demain on a des éoliennes à côté de chez nous qui nous appartiennent et qui génèrent de la richesse chez nous, qui nous permettent de faire des choses. Alors, quand on dit richesse, c'est pas pour être riche en tant que tel, mais juste nous permettre de faire des choses. Plutôt embrasser la transition et se dire, nous en fait on veut un modèle différent, on n'est plus sur des trucs qui sont hyper centralisés. Ça veut pas dire que le grand éolien fera tout seul la transition énergétique, pas du tout. Mais c'est aussi se dire, en fait, on assume aussi d'avoir des infrastructures un peu structurantes qui nous appartiennent et beaucoup plus locales qu'une centrale nucléaire, par exemple. Mais on est prêt aussi à se responsabiliser parce qu'on voit aussi comment est produite notre énergie, quoi. C'est pas juste, on appuie sur un bouton et bon, ça fait certainement du dégât ailleurs, mais c'est un peu plus incarné. À Paris, forcément, j'avais une vision différente des choses, puisque de fait, j'étais assez peu confronté à la possibilité d'avoir une éolienne juste à côté de chez moi. On allait sur les sites, etc., on rencontrait des riverains qui parfois pouvaient se plaindre de certains trucs. Comme j'ai dit, c'est impactant. Ça ne veut pas dire que tous les riverains d'éoliennes de France se plaignent, pas du tout. Il y en a plein qui, la plupart, a priori, le vivent très bien. Il n'y a pas d'impact négatif. Mais il y a aussi des fois des projets qui peuvent être mal développés, où on ne prend pas forcément suffisamment en compte les gens. Et effectivement, ça se ressent, quoi. Voilà. Mais on va dire, moi, ce n'était pas mon sujet principal, on va dire. Moi, au départ, c'était vraiment l'aspect financier et corrélation avec mes valeurs perso. C'est-à-dire que j'étais dans un groupe qui était très engagé, parce qu'on faisait que des énergies renouvelables, on ne faisait pas d'autres projets. Mais c'était quand même un groupe qui était... le groupe appartenait à un fonds d'investissement qui faisait que des énergies renouvelables, mais bon, qui était quand même basé au Luxembourg, quoi. Et sur l'aspect retombée locale, ou en tout cas partage de la valeur, et je vais dire des gros mots, mais collectivisation de la valeur, ou ces choses-là, en fait, j'avais du mal à trouver de la cohérence pour moi, à se dire, oui, c'est des acteurs engagés sur la transition, mais sur la transition énergétique, mais finalement assez peu sur une transition politique, on va dire. Et du coup, moi, c'est plutôt ça que je cherchais à retrouver. En tout cas, c'est ça qui me manquait, et ce que j'ai plutôt retrouvé dans DIWAS, du coup, où là, on est passé sur des statuts plutôt très engagés. Donc, justement, l'appropriation citoyenne de la transition énergétique, s'intéresser pourquoi la transition ne va pas plus vite, qu'est-ce qu'il faudrait aussi, et effectivement, par rapport à ces projets impactants, qu'est-ce qui fait que les gens sont pour, sont contre, etc. On se rend compte qu'on est obligé, et c'est tant mieux, d'expliquer et de redonner du sens en fait à ce qu'on fait. À une toute autre échelle, on a des gens qui sont passés au photovoltaïque chez nous, qui l'ont fait pas tellement pour l'argent, mais parce qu'en fait, en le faisant collectivement, ça leur permettait de donner du sens à leur action. Bon, faire la transition énergétique tout seul dans son jardin, on fait tous des petits gestes, et entre guillemets, il faut les faire, mais la transition énergétique, ou la transition écologique de manière générale, c'est loin d'être que les petits gestes, c'est plutôt d'ailleurs essentiellement pas les petits gestes, et plutôt les actions structurantes. De faire ensemble, du coup, on se redonne un poids différent, et le fait qu'on pousse aussi, qu'on permette de pousser un mouvement plus large qui va pouvoir reporter, je fais un peu le lien, mais. Quelque part en mettant une toiture chez soi avec 10 watts entre guillemets en petits gestes mais qui a du sens, finalement on pousse l'idée d'avoir une approche territoriale de l'éolien où on va réfléchir ensemble à où on veut des éoliennes et du coup permettre qu'il y ait des actions aussi de plus grande ampleur et donc c'est tout ce sens là qu'on donne et on se rend compte que quand on passe du temps à expliquer pourquoi la transition énergétique, les biens, les mal aussi, parce que je veux dire, le zéro impact, ça n'existe pas. Enfin voilà, il faut quand même, même si c'est censé être plus vert, disons, que le reste, ça n'empêche pas de s'interroger au contraire. Et du coup, on a besoin d'expliquer, de mettre en lumière les enjeux et permettre aux gens de se positionner par rapport à ça, de les mettre en situation de choisir. Donc c'est à la fois, quelque part, il y a des volets aussi un peu éducation populaire, quoi. On va dire, la transition énergétique, il faut l'expliquer et permettre aux gens de la comprendre et d'agir dessus, quoi.
Puis il faut que ça donne envie un peu, il faut que ce soit fun. Ça a l'air toujours très plombant, cette transition.
De toute façon, toute la transition, ça a l'air un peu plombant, hein, parce que si tu pars de ce que t'entends un peu tous les jours, dès qu'il y a une housse qui sort dessus, c'est quand même pas hyper réjouissant. Alors après, nous, dans les différents trucs qu'on peut faire, parce que je suis aussi à l'avant-poste, mais sur DIWAS ou l'avant-poste, on se marre bien, quoi. Mais après, ça n'empêche pas d'être conscient des enjeux et des marches qui sont à monter, quoi. On essaye aussi de faire que ça soit convivial. C'est sûr que tout seul à regarder à lire les rapports du GIEC, pour une soirée de novembre, c'est sympa, quoi.
Tu crées DIWAT, le concept ?
Ça remonte à 2016. Une période où moi je me suis retrouvé au chômage, je finissais en gros mon télétravail parisien, et puis je me demandais un peu ce que j'avais envie de faire dans le DIWA. Et puis il y avait déjà eu des initiatives autour de la transition énergétique, notamment Vallée de la Drôme Énergie Citoyenne. La Biovallée était quand même aussi dans les territoires pilotes des territoires énergie positif. Enfin, voilà, donc il y a plein de choses comme ça. On ne partait pas de rien. J'ai beaucoup appliqué l'envie du côté finance solidaire ou finance autrement dans les énergies renouvelables. Et du coup, j'ai un peu arrivé avec effectivement l'envie de vraiment orienter sur une idée de coopérative qui financerait les installations. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis aussi aller voir d'autres gens qui étaient déjà investis dans de la Drôme Énergie Citoyenne, par exemple, ou d'autres gens qui se sont intéressés, et puis on a fini par créer une asso au départ à 8 personnes, je crois, en septembre 2016. Et donc on a commencé à à développer des projets. Hein. Donc c'est trouver des personnes intéressées pour héberger une toiture, puis essayer de voir pour dimensionner ça, obtenir des autorisations, etc., etc. Et puis 9 mois après, en gros, on avait suffisamment de projets. Alors, suffisamment de projets, c'était 7 projets, je crois, pour rendre ça palpable, quoi, qu'il soit pas juste un tas de papier dans une armoire qui dirait qu'on a fait plein de trucs, quoi. À ce moment-là, c'est là où on a transformé l'association en société coopérative d'intérêt collectif. Et à ce moment-là, on était une trentaine, je crois, d'adhérents. Donc on est, enfin, il y a pas mal de sympathisants, quoi, enfin, sur les adhésions. Et donc on a créé la SIC. Et c'est à peu près à ce moment-là, un petit peu après, que la communauté de communes de Diwa aussi est devenue sociétaire de la coopérative et nous a aidé aussi à financer la première tranche de toiture qui s'est faite, quoi. Là, c'était les premiers panneaux posés, quoi. Donc c'est là où on a pu vraiment, on va dire, observer ce qui se passait et que c'était plus juste un tas de papier. Très vite, en fait, on a pu aussi développer une deuxième tranche à peu près pareille de toiture. Donc cette toiture, mais c'est cette fois, c'était cette fois 60 mètres carrés, quoi. Grosso modo, c'était que des petites toitures, effectivement, d'habitants, de salles des fêtes, d'écoles, enfin voilà, des choses comme ça. Puis j'ai pu, début 2018, j'ai pu, moi, me salarier. C'est-à-dire qu'on avait le développement des premiers projets. J'ai passé déjà un temps plein, mais que j'ai fait sur mes allocations chômage pour pouvoir créer mon poste, grosso modo. Et puis, il y a eu cette décision collective de dire, en fait, est-ce qu'on veut rester dans du bénévolat ? Du coup, forcément, moi, avec à un moment le besoin de manger par ailleurs, donc de restreindre mon investissement dedans bénévole, ou puisqu'on avait les moyens, potentiellement, essayer de salarier quelqu'un, en l'occurrence plutôt moi, pour continuer de développer sur un rythme plus actif. Et donc c'est des grandes décisions, on va dire, de la coopérative, ou peut-être une des premières grandes décisions, puisque de dire, on se dote d'un salarié qui du coup va développer ça, quoi. On a commencé aussi à accompagner des maîtres d'ouvrage tiers, quoi, c'est-à-dire à faire du conseil aussi pour d'autres. Donc on a continué comme ça jusqu'à 2019, qui a été une année assez forte, enfin, d'un point de vue structurel, puisqu'il y a eu le territoire d'innovation, enfin c'est la candidature à territoire d'innovation par BioValley, où on a pu nous porter dedans un dossier d'opérateur énergétique territorial, du coup de changer un peu d'échelle, et de se dire est-ce qu'on veut rester un truc petit ou est-ce que en fait on a envie d'être un vrai moteur de la transition énergétique, et du coup ça veut dire se doter d'autres ambitions. Celle qui était cohérente avec le dossier TIGA qu'on portait, c'est-à-dire faire 30% de l'effort sur la production, quoi, pour atteindre un stade de territoire énergie positive.
Pardon, 30%, ça veut dire
Le scénario TEPOS sur BioValley, ça veut dire diviser par 2 ses consommations et dans le même temps multiplier par 4 la production d'énergie renouvelable actuelle, quoi. Et donc ce x4, nous on proposait d'en prendre à peu près 30%, quoi. Et sachant que les autres, c'était d'autres opérateurs privés, les citoyens, les entreprises qui font en direct, enfin voilà, tous les autres pourcents, on va dire. Donc, mais ça veut quand même dire beaucoup de projets, beaucoup d'activités, beaucoup d'argent investi, puisqu'en fait, ça rapporte au territoire, mais je veux dire, à un moment, au départ, il faut quand même sortir l'argent. Et dans le même temps aussi, c'était une année où, du coup, on a créé Impulser, qui est du coup notre structure de développement et de conseil qu'on a créé avec Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est aujourd'hui la boîte à outils de DWATS notamment, mais aussi du territoire pour le développement des ENR, quoi, donc des énergies renouvelables. En 2019, on était 2. Et du coup, aujourd'hui, dans Impulser, on est 8. Et donc, en 2019, on faisait que du photovoltaïque. Et puis, petit à petit, en fait, on a ajouté aussi d'autres activités, puisque les grands piliers de la transition sur le territoire, parce que ça varie d'un territoire à l'autre, mais chez nous, sur BioValley, c'est photovoltaïque, éolien et bois énergie. L'hydraulique, souvent on a la question, est déjà très présente en fait, et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de nouveaux projets, mais c'est juste par rapport aux quantités de production d'énergie renouvelable qu'on doit ajouter, c'est certainement assez marginal les nouveaux projets. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas, qu'il ne faut pas en faire, etc. Au contraire, c'est juste que sûr qu'il y aura la production d'énergie renouvelable à ajouter, ce sera beaucoup plus de l'éolien, du photovoltaïque et du bois dans une certaine mesure que de l'hydraulique, quoi. Et donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui on a plusieurs personnes sur le photovoltaïque, une et deux personnes sur le bois, Et là, on est en train de pérenniser un poste sur l'éolien. Plus, ce qu'on a ajouté, c'est une partie 1 sur l'efficacité énergétique. Même si notre projet de base, c'est plutôt la production, on sait qu'il y a une attente aussi de nos sociétaires sur la partie réduction des consommations, qui de fait fait partie de la transition énergétique, donc quelque part fait partie de notre projet. Tout ce qui est optimisation énergétique chez les industriels sur leurs process, comment on va récupérer de la chaleur sur certains procédés, comment on modifie des groupes froids pour qu'ils consomment moins, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis là, plus récemment, on rentre dans la mise en œuvre, on va faire le financement de la rénovation thermique de l'avant-poste, justement, donc le tiers-lieu transition écologique qui ouvrira l'année prochaine. Et donc, c'est effectivement, pour nous, c'est un truc nouveau. Alors, on ne vise pas les particuliers pour l'instant. C'est une opération un peu prototype par les coopératives citoyennes. Ça va être la première de France qui se fait ce genre d'opération. On va prendre le temps de la faire bien et de tirer du retour d'expérience de ça. Mais voilà, on commence à flécher aussi des fonds sur comment on réduit les consommations. Et donc comment, là en l'occurrence, on aide à faire une rénovation très performante, on va dire, à l'avant-poste. Donc voilà, pour nous, c'est un nouveau sujet, on va dire. Et puis le dernier poste, et donc les choses qu'on pousse, c'est le volet animation-mobilisation. Venant d'où je viens, je ne vais pas critiquer, mais c'est très bien d'avoir des techniciens, on va dire, qui sont capables de faire avancer les projets en gérant tous les aspects techniques, mais pas que. Hein. Enfin, il y a du contractuel, il y a de la relation aussi avec les gens. Mais c'est important, comme on l'a dit au départ, de permettre aux gens de comprendre ce qu'on fait, de comprendre les choix qu'on fait aussi, et potentiellement de s'impliquer, de venir dire bah, « nous, on n'est pas forcément d'accord, on préférait faire ci ou faire ça », ou sans dire « on n'est pas d'accord ». Juste, par exemple, ce truc de rénovation énergétique, c'est parce qu'il y a 2 ans ou 3 ans, en Assemblée Générale, des gens qui nous disent « ouais, bah, c'est super, la prod, enfin, il la faut, et c'est vraiment super, mais quand est-ce qu'on fait des trucs pour réduire les consos ?»
Portrait d'adhérents. Bio-Vallée.
Ce rôle d'éducation populaire donc, que tu disais tout à l'heure, qui est hyper important, est-ce que du coup, en tant que technicien, tu es devenu un bon animateur
J'aime bien prendre le temps d'expliquer. Rien que hier soir, par exemple, on était en réunion publique à Luz-la-Croix-Haute, 30-35 personnes, expliquer ce qu'on peut faire en photovoltaïque chez soi, et puis un peu les autres piliers aussi de la transition, de pourquoi on le fait, pourquoi on le mène, etc. Le contexte, qu'est-ce que c'est un territoire énergie positive, pourquoi sur Bio-Vallée, par exemple, l'autonomie ne suffit pas. Enfin, entre guillemets, on est censé être un territoire, par exemple, qui est excédentaire en énergie, parce qu'on a beaucoup de ressources. Si on veut qu'au niveau national, on soit autonome en énergie renouvelable, 100% ENR, et ben, en fait, il faut qu'un territoire comme Bio-Vallée, en fait, partage son énergie avec d'autres territoires, par exemple comme Lyon, qui ne seront jamais autosuffisants, parce qu'ils sont beaucoup trop denses, quoi. Et donc, voilà, c'est le genre de choses qu'il faut arriver à partager et à comprendre aussi que, quand on dit ça, c'est pas pour que dans le Diwa, on soit tous très riches parce qu'on a exporté notre énergie et qu'on la marchandisait. C'est parce qu'en fait, si on veut que tous ensemble, on soit solidaires sur l'idée qu'on se fournisse tous en énergie renouvelable, et ben en fait, nous, il faudra qu'on soit plutôt contributeurs. Tout le monde est calé sur quand même des scénarios où on divise les consommations par deux, quoi. Enfin, donc, c'est pas aussi mettre plein de production d'énergie chez nous pour qu'ailleurs, ils continuent à chauffer les fenêtres ouvertes. Enfin, c'est pas ça. C'est vraiment tout le monde réduit ses consommations, et quand bien même, il y a des territoires qui pourront pas produire de l'énergie qu'il leur faut, quoi. Donc, c'est un peu les différents niveaux de faire société, quoi. C'est-à-dire qu'on a d'abord... on a envie de partager tout de suite l'énergie entre ses voisins, etc. Puis à territoire, on réfléchit différemment. Et puis en fait, on se rend compte qu'avec les territoires voisins, il y a de fait des interconnexions, quoi. Enfin, ne serait-ce que parce que potentiellement, on connaît des gens sympas ou qu'on apprécie, ou qu'on aime, qui sont à Lyon, par exemple. Donc on a peut-être envie que ces gens-là qui vivent à Lyon, ils aient l'énergie pour vivre, par exemple. Et puis de manière plus... pragmatique, Lyon, il nous envoie aussi potentiellement des choses. Enfin, on a peut-être besoin que Lyon existe pour avoir certaines choses. On est content qu'on est content d'avoir. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, on peut pas se penser complètement isolé du monde. Et donc, si on veut que les autres puissent poursuivre, on va dire, le même but que ce qu'on poursuit nous, et ben, il y a un besoin de nous sur ce sujet, en tout cas, d'être plutôt exportateur. Quoi. Voilà. Il y a souvent des envies fortes d'être autonome. Il y a quand même beaucoup plus rarement le souhait, on va dire, d'être ermite ou de arrêter de partager, en fait. Souvent, dans l'autonomie, il y a le souhait de plus faire de concessions, on va dire, par rapport à un système qui nous déplaît, globalement, quoi. Mais si finalement en fait on peut partager, on est encore plus content, quoi. Enfin, si on veut être autonome et partager, voilà. Et donc c'est plus ça qu'on défend, mais ce que ça veut dire à la fin, c'est quand même qu'on doit produire plus que pour soi-même, quoi. Voilà.
Et depuis 2016, comment t'as senti du coup la population ?
Il y a une prise de conscience climatique et énergétique dans un deuxième temps, qui est là, qui n'est pas encore à la hauteur, on va dire, y compris peut-être même sur Biovallée, mais je veux dire, il y a quand même une prise de conscience des choses, et ça c'est indéniable, et c'est indéniable que ça va pas assez vite, mais c'est quand même là. Et après, sur l'énergie, c'est vraiment un moment qui est très particulier, parce que, de fait, la production énergétique en Europe, et du coup un peu au niveau mondial, mais est très perturbée, parce que des centrales nucléaires sont à l'arrêt, parce que guerre en Ukraine, et du coup tension sur le gaz, le pétrole, enfin voilà. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est très particulier. Et donc, de fait, il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, se sentent très concernés par la thématique énergie. Alors, il y en a qui l'étaient déjà et qui se disent « Ah oui, c'est vraiment le moment de s'y pencher ». Et puis, il y en a aussi qui arrivent, on va dire, un peu en panique aussi, hein, en se disant « On va être coupé cet hiver, j'ai plus de granulés, les prix à la pompe, c'est n'importe quoi, les prix de l'élec, qu'est-ce que ça va devenir ?» Enfin, voilà. Et donc, en disant quand même que bon, les particuliers, ils souffrent plutôt du côté carburant. Par contre, c'est sans commune mesure avec ce qui se passe en ce moment sur les marchés de l'électricité, et donc ce à quoi sont exposées les entreprises et les collectivités. Donc ça, on l'a tous plus ou moins vu ou lu, ou dans les grands médias nationaux, ou dans les bulletins municipaux qui expliquent comment les factures d'électricité, elles font x3, x4, au plus, quoi. Et c'est vrai aussi pour plein d'entreprises pour qui les charges d'électricité avant c'était potentiellement pas très important ou un petit peu important, et où là, ça devient d'un coup un vrai problème parce que ça les met dans le rouge, quoi. Du coup, tout le monde s'y penche, et ce qui fait que ça met, par contre, c'est un peu le truc du tout de suite, du coup, ça met des filières en tension parce que, les panneaux, je veux dire, à la limite, ils se font un peu tout seuls parce que c'est des usines qui sont très robotisées. Par contre, les gens qui sont formés pour les poser, qui sont capables d'analyser des projets, qui sont capables de faire aussi toutes les études autour, etc., en fait, ces gens-là, ils se retrouvent sous l'eau. Parce que,
c'est votre cas, Diwat ?
Ouais, nous, on a, je pense, en moyenne, une sollicitation par jour, un projet par jour, nouveau, qui arrive comme ça, et qu'il faut traiter, quoi. Et donc, sachant qu'un projet, bon, ça, on claque pas des doigts pour savoir ce qu'il faut faire, quoi. Et donc, c'est vrai pour nous, mais c'est très vrai aussi pour les installateurs photovoltaïques, locaux, avec qui on travaille, et qui, donc, il n'y a pas que nous qui les sollicitons, hein, les gens veulent faire des projets, etc., donc ils les sollicitent aussi en direct, voilà. Et donc, ça met vraiment une tension. Il y a une tension aussi sur les granulés, puisque du coup, maintenant aussi, on a commencé à donc avoir des chaufferies à nous, c'est-à-dire qu'on vend de la chaleur. Pour l'instant, c'est que à des établissements privés, mais collectifs, quoi. Donc il y a deux écoles, notamment l'école Notre-Dame de Die et l'école Notre-Dame de Grannes, qui ont vendu de la chaleur. Et puis les deux espaces de coworking, donc l'espace Barral et puis l'avant-poste quand il sera ouvert, où on vend la chaleur aussi. D'ailleurs, l'espace Barral, il y a une inauguration le 5 décembre, lundi 5 décembre à 8h30. Et du coup, c'est beaucoup aussi comme on passe, j'ai un peu dit tout à l'heure, mais de voir l'énergie comme une marchandise à plutôt voir l'énergie comme quelque chose qui déjà répond à un de nos besoins, quoi. Et donc, c'est comment on s'autonomise, pas forcément avec une envie, comme je disais tout à l'heure, de siloter, mais plutôt de dire, en fait, aujourd'hui, on a des besoins énergétiques, et en fait, on est hyper dépendant un des autres, mais à la limite, bon, c'est dépendant des autres, ça peut se discuter, mais en tout cas, surtout sur un mode qui est peu vertueux, quoi. Sans rentrer dans le débat sur le nucléaire, déjà aujourd'hui, le fossile en France, c'est plus de 50% des consommations d'énergie, quoi. Donc, chacun de nous, entre le chauffage qu'on peut avoir, les transports qu'on peut prendre, et puis toutes les choses qu'on va consommer et qui nécessitent en fait, du pétrole ou du gaz pour être faites.
C'est le cas des granulés, d'ailleurs.
Et ben, c'est le cas en partie des granulés.
Pour faire des granulés, il faut du pétrole, il faut de l'énergie.
Il faut de l'énergie. Aujourd'hui, de fait, il faut du pétrole parce qu'il faut aussi les transporter. Mais par exemple, les granulés, c'est intéressant d'expliquer un peu plus comment c'est fait et le delta. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a eu le débat dans 10 watts au départ, mais comme dans plein de collectifs citoyens qui sont lancés dans la chaleur, de dire est-ce qu'on veut faire que de la plaquette forestière, parce que la plaquette forestière, hein, c'est ce qui permet d'avoir un approvisionnement ultra local et un circuit très très court du coup de l'énergie, d'avoir des vraies retombées sur le territoire, d'avoir un lien à la forêt, etc. En fait, il y a des endroits où on ne peut pas mettre de plaquettes, parce qu'il faut des silos plus gros, parce qu'il faut pouvoir les déverser, ça se manipule moins bien que du granulé. Et donc, typiquement, là, dans le centre-ville de Die, c'est très compliqué de faire de la plaquette. Et donc on a dit, en fait, on préfère faire du granulé, parce que ça sera quand même toujours mieux que faire transiter du pétrole au bout de la planète, quoi. C'est un tout petit peu moins vrai en ce moment, parce qu'il y a des fortes demandes, mais globalement, le granulé en Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'encore une fois, il faut regarder les situations assez localement, c'est-à-dire que les réponses ne sont pas universelles sur le granulé. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région qui est exportatrice de granulés. On en a plus que les besoins qu'on a sur le territoire. Donc ça veut dire que quand on va se fournir en granulés sur les Diwa, par exemple, ou sur la Biovallée, on va être sur un approvisionnement qui est relativement local, puisque c'est de la région. On n'a pas les trucs de granulés qui va venir de Pologne ou du Canada ou j'en sais rien, quoi. On ne va pas du tout être sur ce type d'acheminement. Peut-être que si on avait été dans une région qui devait en importer, on n'aurait pas eu la même réflexion. Et globalement, c'est des déchets de scierie, hein, le granulé. Donc on prend très peu, parce que ça existe un petit peu, mais on prend très peu d'arbres pour faire des granulés directement. C'est des arbres qui sont pris pour du bois d'œuvre, qui font de la sûre, et c'est cette sûre qu'on transforme en granulé, avec effectivement en utilisant de l'énergie. Sur le Diwa, hein, pour se donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 150 km, on va dire, entre la scierie et la chaudière dans laquelle le granulé est brûlé, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, et c'est là aussi tout ce qu'il faut arriver à faire, enfin sortir un peu des postures et tout, c'est se dire, bon, 150 km, est-ce qu'on est OK, est-ce qu'on n'est pas OK, quoi. Enfin, voilà. Nous, notre position, ça a plutôt été de dire que ces 150 km, c'est peut-être mieux que les milliers de kilomètres que parcourt le pétrole pour venir à la place aujourd'hui, pétrole ou gaz. Maintenant, ce n'est pas un impact zéro, il faut en être conscient. Et il faut aussi, du coup, s'interroger sur comment on met en place ça. Maintenant, on est d'accord que nous, notre grand sujet sur le bois, c'est plutôt essayer de tirer la plaquette que le granulé. Voilà. Donc c'est un peu, on compose, quoi.
Bon, merci pour ce cours sur le granulé. Alors 10 watts, on l'a vu, du coup c'est très divers maintenant, à la fois la production d'énergie, mais aussi, comme tu le disais, la vente d'énergie aussi, d'une certaine manière. À quel moment vous devenez adhérent à Biovallée? Et pourquoi?
Moi je suis adhérent au titre d'habitant aussi, de se retrouver dans un territoire qu'on a envie de voir un peu exemplaire, sur plein d'aspects, sur la transition écologique et sociale, du coup, de fait, mais on ne parle peut-être pas assez d'ailleurs de transition sociale à Biovallée encore, mais ça changera certainement à un moment, mais en tout cas, d'un point de vue transition écologique, c'est plutôt l'idée de soutenir tous les acteurs qui ont envie de s'engager dans cette démarche, et qui sont assez nombreux, hein, d'ailleurs, sur Biovallée, il y a quand même une belle mayonnaise entre élus, entreprises, habitants, pour faire des choses. Donc voilà, moi j'ai adhéré à titre individuel parce que je trouvais le projet intéressant, on va dire, de s'identifier et de pousser ensemble des actions là-dessus, même si effectivement mon lien avec Biovallée, il passe beaucoup plus par 10 watts. Et donc 10 watts a adhéré à Biovallée assez tôt, hein. Je pense, peut-être pas 2016, mais du coup 2017, je pense qu'on doit être adhérent à ce moment-là. Mais parce que c'est pareil, ça nous semblait en fait assez naturel de rejoindre une démarche collective territoriale, quoi. Bon, évidemment, en tant que geek de l'énergie, je trouve ça passionnant, l'énergie, mais je veux dire, c'est pas non plus le seul sujet de transition, quoi. Enfin, la transition écologique, c'est beaucoup plus large que la transition énergétique, mais la transition énergétique, on peut pas l'enlever, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de transition écologique sans transition énergétique, quoi.
Et qu'est-ce que, du coup, vous avez trouvé ?
C'est quand même, du coup, un réceptacle de réseau, quoi. C'est-à-dire que on est aussi, entre guillemets, un peu entre acteurs engagés. Et du coup, ça permet un peu de potentiellement de discuter des priorités qu'il peut y avoir, aussi d'échanger sur les projets qu'ont chacun pour potentiellement faire des projets ensemble, quoi. De voir aussi ce à quoi travaillent les autres, pour voilà contribuer quand il faut contribuer quoi. Enfin donc puis nous il y a aussi toute une dimension la transition énergétique en tant que telle, mais il y a aussi effectivement un gros volet je veux dire social, mais sur comment on répartit les richesses, comment on répartit les pouvoirs, enfin voilà, qui tient plutôt de la démocratie, du social, etc. Et qui est aussi un truc qui nous intéresse, et donc c'est aussi des sujets qu'on peut porter. Alors, de fait, on a été très pris ces derniers temps, et du coup, on n'a pas eu un investissement démentiel dans BioVallée, enfin, on le dit aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas, aujourd'hui, on n'est pas au conseil d'administration de BioVallée, par exemple. On n'est pas dans des groupes de travail particuliers aujourd'hui. Par contre, il peut y avoir des sollicitations plus ou moins ponctuelles pour participer à des événements. Ou ce qu'on fait régulièrement aussi, c'est accueillir des gens qui viennent visiter BioVallée et à qui on explique nous ce qu'on fait sur l'énergie, quoi. Donc il y a un peu ce truc-là de à la fois pousser vers un territoire exemplaire, donc nous, sur des actions qui nous intéressent, énergie, démocratie, grosso modo, et aussi partager cette expérience auprès d'autres territoires qui veulent faire la même chose, quoi.
Tu nous parlais de cet aspect démocratique. Est-ce qu'il manque à BioVallée? Est-ce que du coup, il faudrait à un moment donné s'investir pour ça?
La plupart des boîtes avec lesquelles on travaille ne sont pas des coopératives. Ça n'empêche pas les gens d'être très sympas, d'être très engagés aussi. Nous, la détention, le partage de la richesse et du pouvoir, c'est très fort chez nous. Enfin, voilà, comme dans toutes les SIC. Et donc, c'est sûr que c'est peut-être un peu moins partagé par d'autres acteurs qui sont plus dans des schémas, plus classiques. Mais ça ne les empêche pas, encore une fois, d'essayer de bien faire et d'être engagés. Je sais pas. Nous, on n'est pas à la recherche de pouvoir. On essaye de faire avancer déjà la transition énergétique. Après, disons que si on trouve les bénévoles qui sont chez nous et qui sont chauds pour aller au conseil d'administration, je pense qu'on finira par candidater parce que c'est aussi un projet qui nous tient à cœur et donc on n'a pas envie de rester à côté du truc. Mais c'est bien qu'il y ait du mouvement, et donc peut-être qu'un jour on y sera, puis on y sera replus. Et puis, les conseils d'administration, c'est pas aussi l'alpha et l'oméga de l'investissement dans les structures, quoi. Enfin, dans les assos, c'est pareil, il y a des conseils d'administration, mais il y a des groupes de travail, souvent des choses comme ça. Donc voilà, s'il y a des choses, peut-être. Enfin, on a pu le faire, hein, de s'investir sur des trucs plutôt avec des volets impact social ou des choses comme ça. Donc notre investissement, il peut aussi passer dans des choses comme ça, quoi.
Ouais. Bah merci d'être prêté au jeu du portrait d'adhérent BioVallée. Pour terminer sur des trucs un peu plus perso, je voudrais te laisser une parole libre, tu choisis. Et puis aussi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on écoute pour terminer?
Je suis ravi, justement, pour peut-être continuer sur ce volet coopératif, c'est que le DIWA et BioVallée aussi... C'est quand même un territoire qui est hyper riche en sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il y en a vraiment, enfin, beaucoup par rapport au nombre d'habitants. Puis on entend régulièrement des projets de nouvelles SIC qui veulent se monter. Et du coup, on a vraiment l'impression d'être dans un mouvement de sociétés coopératives d'intérêt collectif qui est vraiment chouette, quoi. Parce je pense que tous les gens qui y goûtent sont assez vite convaincus par le truc, quoi. C'est pas des modèles parfaits comme tout, mais en tout cas, c'est assez chouette d'y participer. Et puis, des valeurs qui vont avec. Hein, c'est quand même, grosso modo, la démocratisation de toute l'économie. Enfin, c'est ça qui est quand même porté. Donc voilà, donc, moi, c'est un truc qui me rend assez heureux au quotidien de pouvoir se dire, bah tiens, en fait, quand j'achète ci ou que j'achète ça ou que je m'investis là-dedans ou que je fais ci... de me dire que je le fais avec des structures qui sont et coopératives et d'intérêt collectif, quoi. Voilà, je pense que comme plein de gens qui, quand ils vont à la Carline, peuvent se dire aussi c'est chouette, je soutiens, enfin je fais un acte politique quelque part dans ma vie de tous les jours et je suis content de le faire, en fait. Voilà un petit peu pour le parole libre, mais en lien quand même avec ce qui était avant. Je suis pas sûr d'avoir des sujets complètement différents là sur lesquels je peux me mobiliser. Et peut-être il faudrait que je fouille dans mon téléphone des dernières choses que j'ai écoutées, que je pourrais avoir envie de réécouter maintenant. Il y a eu du Arcade Fire. Un titre que j'ai pas mal poncé finalement, c'est le Sprawl de l'album et The Suburbs. Voilà. Ça, là, c'est vraiment bien.
Jean-Baptiste Boyer, merci.
Merci.